Mémoire de deux jeunes mariés, écrit par Honoré de Balzac, lu par Chloé Miner. À George Sand. Ceci, cher George, ne saurait rien ajouter à l'éclat de votre nom, qui jettera son magique reflet sur ce livre. Mais il n'y a là de ma part ni calcul, ni modestie. Je désire attester ainsi l'amitié vraie qui s'est continuée entre nous à travers nos voyages et nos absences, malgré nos travaux et les méchancetés du monde. Ce sentiment ne s'altérera sans doute jamais. Le cortège de noms amis qui accompagnera mes compositions mêle un plaisir aux peines que me cause leur nombre, car elles ne vont point sans douleur à ne parler que des reproches encourus par ma menaçante fécondité, comme si le monde qui pose devant moi n'était pas plus fécond encore. Ne sera-ce pas beau, Georges, si quelque jour l'antiquaire des littératures détruites ne retrouve dans ce cortège que de grands noms, de nobles cœurs, de saintes et pures amitiés, et les gloires de ce siècle. Ne puis-je me montrer plus fier de ce bonheur certain que de succès toujours contestable? Pour qui vous connaît bien, n'est-ce pas un bonheur que de pouvoir se dire, comme je le fais ici, votre ami, de Balzac. Paris, juin 1840. À Mademoiselle Renée de Maucombe, Paris, septembre. Ma chère biche, je suis dehors aussi, moi. Et si tu ne m'as pas écrit à Blois, je suis aussi la première à notre joli rendez-vous de la correspondance. Relève tes beaux yeux noirs attachés sur ma première phrase, et garde ton exclamation pour la lettre où je te confierai mon premier amour. On parle toujours du premier amour. Il y en a donc un second ? Tais-toi, me diras-tu. Dis-moi plutôt, me demanderas-tu, comment tu es sortie de ce couvent où tu devais faire ta profession. Ma chère, quoi qu'il arrive aux Carmélites, le miracle de ma délivrance est la chose la plus naturelle. Les cris d'une conscience épouvantée ont fini par l'emporter sur les ordres d'une politique inflexible. Voilà tout. Ma tante, qui ne voulait pas me voir mourir de consomption, a vaincu ma mère, qui prescrivait toujours le noviciat comme seul remède à ma maladie. La noire mélancolie où je suis tombée après ton départ a précipité cet heureux dénouement. Et je suis dans Paris, mon ange, et je te dois ainsi le bonheur d'y être. Ma Renée, si tu m'avais pu voir, le jour où je me suis trouvée sans toi, tu aurais été fière d'avoir inspiré des sentiments si profonds à un cœur si jeune. Nous avons tant rêvé de compagnie, tant de fois déployé nos ailes et tant vécu en commun, que je crois nos âmes soudées l'une à l'autre, comme étaient ces deux filles hongroises dont la mort nous a été racontée par M. Beauvisage, qui n'était certes pas l'homme de son nom. Jamais médecin de couvent ne fut mieux choisi. N'as-tu pas été malade en même temps que ta mignonne? Dans le morne abattement où j'étais, je ne pouvais que reconnaître un à un les liens qui nous unissent. Je les ai crus rompus par l'éloignement. J'ai été prise de dégoût pour l'existence, comme une tourterelle dépareillée. J'ai trouvé de la douceur à mourir, et je mourrai, tout doucettement. Être seule aux Carmélites, à Blois, en proie à la crainte d'y faire ma profession, sans la préface de Mademoiselle de la Vallière, et sans ma Renée, mais c'était une maladie mortelle. Cette vie monotone où chaque heure amène un devoir, une prière, un travail si exactement les mêmes, qu'en tout lieu, on peut dire ce que fait une carmélite à telle ou telle heure du jour ou de la nuit. Cette horrible existence où il est indifférent que les choses qui nous entourent soient ou ne soient pas, était devenue pour nous la plus variée. L'essor de notre esprit ne connaissait point de bornes. La fantaisie nous avait donné la clé de ses royaumes. Nous étions, tour à tour, l'une pour l'autre, un charmant hippogriffe. La plus alerte réveillait la plus endormie, et nos âmes folâtraient à l'envi, en s'emparant de ce monde qui nous était interdit. Il n'y avait pas, jusqu'à la vie des saints, qui ne nous aidât à comprendre les choses les plus cachées. Le jour où ta douce compagnie m'était enlevée, je devenais ce qu'est une carmélite à nos yeux, une Danaïde moderne qui, au lieu de chercher à remplir un tonneau sans fond, tire tous les jours de je ne sais quel puits un seau vide, espérant l'amener plein. Ma tante ignorait notre vie intérieure. Elle n'expliquait point mon dégoût de l'existence.
Sample complete. Ready to continue?